OTV des élus et des rivières. Pour tout savoir sur l'eau et les rivières, une émission animée par Antoine Verochowski et Jérémy Pourreau. Partenariat avec l'Office international de l'eau et l'Office français de la biodiversité.
Épisode 12. La politique de l'eau en France. Quel contexte et quel futur ?
Benoît Fribourg-Blanc, bonsoir. Je vais commencer tout simplement par vous demander une brève introduction de votre part sur qui vous êtes et ce que vous faites.
Bonsoir, Benoît Fribourg-Blanc. Donc, je travaille à l'Office international de l'eau depuis 22 ans. Comme chef de projet sur des projets européens, essentiellement sur l'application de la législation européenne sur l'eau et notamment sur la pollution. Donc, je vais vous parler ce soir de la politique de l'eau en France et un petit peu en Europe. Et effectivement, je vais rester assez bref puisque le sujet est très vaste et très complexe comme nous allons le voir dès maintenant.
Merci. Du coup, avant peut-être de rentrer déjà dans la politique de l'eau et dans le vif du sujet, on va peut-être faire un petit bref récapitulatif, alors vraiment bref, sur un peu ce qu'est le grand cycle de l'eau et de quoi, ben, sur quoi en fait va parler ces politiques.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, quand on aborde la question de la législation, bon, moi, je ne suis pas juriste, donc je vais vous parler en termes assez généraux. Je pense qu'il faut se rappeler un peu de quoi on parle, puisque l'eau, en fait, ça touche tout le monde à tous les niveaux. Et en général, effectivement, on représente le grand cycle de l'eau tel qu'on l'appelle, avec un schéma de ce type-là, où on a donc sous l'effet du soleil l'eau qui s'évapore depuis la mer et les lacs et rivières, mais aussi qui s'évapore des sols et grâce aux végétaux. Qui ensuite condense et reprécipite et ensuite circule, s'infiltre dans les sous-sols, ruisselle pour aller de nouveau alimenter les lacs, les rivières et rejoindre la mer. Globalement, on a 60% de cette eau qui vient de l'évaporation sur les sols et grâce à la végétation. Il y en a 15% qui rejoignent les rivières et 25% qui vont dans les nappes d'eau souterraines. Et tout ça fonctionne dans un cycle éternellement renouvelé.
Bon, là, on est dans un cycle qui est quand même assez naturel, mais si on rajoute l'homme et ses usages, ça ressemble plutôt à quoi ?
Alors, si on rajoute l'homme et ses usages, on a différents types d'usages. On a effectivement des usages agricoles, soit au travers de l'irrigation ou directement, simplement parce que l'eau alimente les sols et permet la production agricole. On a des usages domestiques qui sont essentiellement de l'eau potable. Et puis, on a des usages industriels pour différentes productions, y compris pour le refroidissement des infrastructures. Et puis, il ne faut pas oublier des usages qui sont moins directement de l'eau elle-même, mais plus du milieu aquatique, et en particulier autour de la navigation et des loisirs. Donc, on a dans tout ça, comme on le voyait avant avec le schéma du grand cycle, des usages à tous les niveaux. Alors, parfois, on parle du petit cycle de l'eau. Le petit cycle de l'eau, c'est essentiellement le pompage de l'eau dans les rivières et les nappes souterraines qui sert ensuite, après un traitement dans des usines d'eau potable, à alimenter les villes et puis éventuellement certains usages industriels qui ensuite retournent à l'épuration et retournent au milieu une fois traité.
D'accord. Sachant que la politique de l'eau qu'on va voir englobe le grand cycle de l'eau, le petit cycle de l'eau, et s'occupe des deux cycles.
La politique de l'eau, elle essaye d'appréhender l'ensemble de ces problématiques pour permettre les différents usages, tout en permettant aussi au milieu aquatique de fonctionner de la meilleure façon possible en fonction des usages.
Très bien. Alors, aussi, l'eau, la politique de l'eau, qui s'en occupe, qui la gère et qui en est les, sont les principaux interlocuteurs et responsables, entre guillemets, de cette politique de l'eau sur le territoire?
Alors, la politique de l'eau en France, elle a une approche qui est différente de d'autres pays européens. C'est lié en partie au fait que la gestion de l'eau et les usages impliquent des acteurs très diversifiés, les collectivités territoriales, les acteurs économiques, les associations, et puis aussi différentes échelles géographiques, depuis l'Europe jusqu'au niveau national, les bassins versants, les 13 régions, les 96 départements, 35 000 communes, bref, un grand nombre d'acteurs qui ont chacun des rôles et des besoins divers. Et donc, elle s'est organisée depuis les débuts autour de trois piliers indépendants les uns des autres et qui travaillent ensemble. La partie régalienne qui s'occupe de la réglementation et de la police, les maîtres d'ouvrage avec les collectivités locales, les acteurs économiques, et puis la partie financière pour permettre de financer les différentes infrastructures avec des redevances et des aides.
D'accord. Si on peut citer un peu financier, bon, je pense à l'Agence de l'eau. Niveau régalien, ce serait plutôt les services de l'État type DDT, DREAL, OFB.
Tout à fait, la police de l'eau. Et même le ministère, puisque le ministère fait en sorte de surveiller que la réglementation est appliquée correctement, demande aux collectivités et aux différents maîtres d'ouvrage de fournir un certain nombre de données et d'informations pour suivre la manière dont ça se développe.
D'accord. Et pour les maîtres d'ouvrage, maintenant, c'est plus souvent les structures GEMAPI qui sont les maîtres d'ouvrage sur ces questions. Pour certaines questions, puis après, il y a les collectivités, etc. Donc, il y a plusieurs maîtres d'ouvrage, mais voilà un peu ce qu'il peut y avoir, si je ne me trompe pas.
Tout à fait. Les maîtres d'ouvrage sont les maîtres d'ouvrage qui s'occupent du petit cycle de l'eau, donc tout ce qui est production d'eau potable et assainissement, mais aussi tous ceux qui s'occupent de la gestion des milieux et de tous les risques associés, et en particulier au travers de la GEMAPI.
D'accord. Quand on a, alors maintenant, le vif du sujet, la politique de l'eau, maintenant qu'on a un peu vu qui étaient les acteurs et ce qui est, de quoi, sur quoi on allait parler, la politique de l'eau, on en parle beaucoup, mais au final, à partir de quand on a commencé à véritablement avoir une politique de l'eau structurée en France et pourquoi on a une politique de l'eau qui s'est développée sur notre territoire?
Alors, il y a des raisons assez diverses, et puis on peut chercher dans l'histoire même beaucoup plus loin, hein, puisque au Moyen Âge, dans toute l'époque féodale, c'est plutôt ça fait partie des communs ou des aménités, donc c'est plus géré par le seigneur. Ensuite, on voit apparaître petit à petit avec la centralisation l'influence du roi et de l'apparition des eaux et forêts et toutes ces choses-là. Avec la révolution et le développement de la production industrielle et des usages urbains et des besoins dans les villes, il y a aussi des choses qui apparaissent. Mais voilà, on ne va pas décrire l'ensemble de l'histoire, refaire toute l'histoire depuis longtemps. Donc, moi, j'ai choisi de commencer à partir des années 50. Donc, sur la période 50-70, la France connaît une croissance économique rapide, une urbanisation importante. Et c'est la période où on développe les réseaux d'eau potable pour alimenter tout le monde, y compris dans les petits villages et dans les zones rurales. Du coup, dans cette période, on est surtout focalisé sur la santé humaine dans les villes. Donc, l'objectif principal, c'est de gérer les eaux usées en les envoyant plus loin, mais pas nécessairement en les traitant. Donc, les eaux usées sont en particulier dans les grandes villes collectées et transférées à l'aval dans les rivières, sans ou avec assez peu de traitement. Et ailleurs, la majorité des eaux usées ne sont ni collectées ni traitées. Et la majorité des activités économiques rejettent leurs eaux avec assez peu de traitement. Ce qui amène à réagir, hein, puisque on voit, moi je me souviens même moi-même quand j'étais jeune, j'habitais dans un village et je traversais une rivière qui changeait de couleur tous les jours. Voilà, il fallait agir. Et donc, c'est à partir de ce constat et de ces évolutions que s'est mis en place une vraie politique de l'eau. Et donc, cette politique, elle, On verra au fur et à mesure de ma présentation, mais elle s'est appuyée progressivement sur trois grandes lois. La première, c'est la loi de 64. Donc, cette loi de 64, elle propose une nouvelle organisation de la politique publique de l'eau, et notamment une organisation fondée sur des bassins versants qui correspond au territoire des grands fleuves. Alors, on a choisi pour le territoire métropolitain de se baser sur les principaux grands fleuves, Seine, Loire, Garonne, Rhône, Rhin, Meuse. Elle introduit aussi une notion de pollueur-payeur et utilisateur-payeur, avec l'idée que l'eau va payer l'eau ou l'eau paye l'eau. Et elle crée les agences de l'eau qui sont chargées de collecter et redistribuer les fonds.
D'accord. Donc, il y a quand même des grosses avancées déjà avec la loi de 1964 qui voit apparaître les financeurs principaux qu'on connaît, qui sont déjà quand même les agences de l'eau. Bon, je suppose que, étant donné que la diapo s'arrête à 1970 et qu'on parle encore de politique de l'eau, que le problème ne s'est pas résolu avec cette loi-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après dans les années 70 et au-delà? Il y a eu d'autres constats, d'autres problématiques?
Alors, effectivement, il y a eu d'autres constats. Alors, il faut simplement se rappeler que cette loi de 64, elle apporte déjà une certaine structure dans cette organisation de la gestion de l'eau pour la France, qui, on le verra plus loin, servira aussi de modèle dans d'autres contextes. Je présente ici l'organisation administrative, hein, l'Europe, la France, les régions et puis les départements sur la gauche, là. Et en fait, cette loi sur l'eau, elle introduit donc un comité national de l'eau qui va commencer à s'intéresser à la problématique spécifique de l'eau, un préfet coordonnateur de bassin qui va s'occuper de coordonner la politique de l'État dans les bassins, la gestion des ressources, la police de l'eau, etc., et des comités de bassin qui vont être constitués de trois collèges, les élus, l'administration, les usagers, et qui vont du coup agir sur les six grands bassins versants. Donc, on va petit à petit faire cohabiter deux organisations, l'organisation administrative région-département et l'organisation par bassin. Et donc, il va falloir sans arrêt gérer cette dichotomie quand on va s'intéresser à collecter des informations, à essayer de montrer la situation, comment ça se passe, les relations amont-aval et ce genre de choses. À partir dans la période 70-90, c'est vraiment la période où on voit se développer l'habitat individuel, les banlieues. On voit aussi une extension des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. On traite les effluents industriels de plus en plus. Et puis, on commence à voir apparaître aussi de plus en plus d'inondations en centre-ville, en particulier parce que l'extension des réseaux d'assainissement et les réseaux d'assainissement en eux-mêmes étaient collectés au travers du tout à l'égout, aussi bien les eaux usées que les eaux de pluie. Et donc, ça pouvait générer à certains moments des soucis en centre-ville. C'est aussi la période où la nature et le vivant deviennent de plus en plus importants. Hein. Il y a un certain nombre de législations sur la protection de la nature et des poissons qui commencent à apparaître. Du coup, dans cette période, on va se focaliser en particulier sur la composante hydraulique des eaux usées. On va commencer à développer les réseaux séparatifs pour séparer la collecte des eaux usées et la collecte des eaux de pluie. On va commencer aussi à améliorer la gestion des eaux pluviales en zone urbaine, à la fois en favorisant un peu plus l'infiltration et puis en essayant aussi au niveau des stations d'épuration, à défaut de tout collecter, du moins de récupérer le premier flot d'orage qui va permettre déjà de récupérer une partie de la pollution. Ça nous amène du coup à la nouvelle loi, donc une autre loi importante, la loi de 92. Cette loi de 92, elle pose le principe de l'eau qui fait partie du patrimoine commun de la nation. Elle pose comme objectif la gestion équilibrée de la ressource en eau et la conciliation des besoins et des usages. Elle organise la planification dans le domaine de l'eau, avec notamment la création d'une direction de l'eau et de direction régionale de l'environnement. Et puis, elle introduit quelque chose qui va ensuite avoir beaucoup d'importance, c'est la déclaration, l'obligation pour tous les usagers de l'eau de déclarer ou de faire une déclaration ou une demande d'autorisation à chaque fois que les projets ont un impact sur la ressource en eau. Ce qui va permettre, en regard de ça, de développer une police unique de l'eau qui va s'intéresser à tous les utilisateurs d'eau et au suivi, au contrôle de tous ces utilisateurs d'eau. Elle introduit aussi quelque chose qui est relativement nouveau par rapport à ce qui se faisait jusque-là, c'est que les réseaux d'assainissement ne sont pas possibles partout, parce que ça coûte trop cher, parce que ça ne fonctionne pas bien techniquement, etc. Et du coup, elle demande aux municipalités de développer un schéma directeur d'assainissement et de mettre en place un service public de l'assainissement non collectif. Puisque aux endroits où on ne pose pas de réseau, et ben, du coup, on va être obligé de mettre en place une fosse septique et un épandage pour traiter les eaux usées de l'habitat.
Si on compare avec la loi de 1964 aussi, qui a mis en place des grands bassins, la loi de 1992, elle agit aussi sur la gestion en termes de bassins ou même de sous-bassins pour les aménagements, etc.
Tout à fait. Elle introduit du coup des outils de gestion spécifiques à l'échelle des bassins et des sous-bassins. Donc, c'est elle qui introduit le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, le SDAGE, qui est élaboré au niveau de chaque bassin hydrographique. Et elle introduit à une échelle plus fine les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ou SAGE, au niveau des sous-bassins. Je vous ai mis là une carte de 2022 qui montre que plus de la moitié du territoire français est couvert par des SAGE qui permettent une meilleure gestion de l'eau et des différents usagers.
Ouais, un peu plus ciblé, un peu plus localisé.
Un peu plus localisé, tout à fait.
Alors du coup, loi sur l'eau 1992. Je suppose que l'histoire ne s'arrête pas là pour la loi sur l'eau, parce que pour ceux qui connaissent un peu le domaine des milieux aquatiques, il y a encore une grande loi, notamment qui n'a pas encore été citée. Alors du coup, à partir de 90 jusqu'à aujourd'hui, on rentre peut-être dans une autre logique aussi pour les milieux aquatiques et puis d'autres préoccupations, d'autres problématiques.
Tout à fait. Aujourd'hui, de 90 à aujourd'hui, on voit apparaître aussi beaucoup plus l'influence de la législation européenne, puisque en 91, par exemple, ont été adoptées la directive nitrate et la directive aux résidus urbaines. On voit aussi apparaître l'environnement aquatique en tant que tel et la qualité des milieux qui deviennent des sujets plus importants. On voit aussi se développer beaucoup le suivi des milieux. On commence à mesurer la qualité de l'eau, les différents paramètres. Les outils s'améliorent aussi beaucoup. Il y a beaucoup de recherche qui est menée et qui permet de développer des outils de suivi de la qualité de l'eau. Et donc, ça permet d'agir plus finement. On est capable aussi de mieux en mieux de relier la pollution avec ses effets sur la santé et sur l'environnement. Et du coup, on commence aussi à s'intéresser non seulement aux pollutions ponctuelles, mais aussi aux pollutions diffuses, en particulier parce que finalement, les pollutions ponctuelles dans cette période, elles sont de mieux en mieux traitées. Dans cette période, on voit se développer beaucoup les stations d'épuration. On arrive aujourd'hui à 22 000 stations d'épuration pour la France. 5 millions d'installations d'assainissement non collectif, plus de 300 000 km de réseau d'égouts. Donc, toutes les pollutions ponctuelles sont de mieux en mieux traitées. Et donc, on voit apparaître la notion de pollution diffuse, qui est tout ce qui tourne autour des pesticides, autour des micropolluants, autour des dépôts atmosphériques sur les sols, qui derrière sont transférés dans les cours d'eau et dans les milieux aquatiques. Sachant que les milieux aquatiques servent à produire de l'eau potable, ça forcément, il y a l'ensemble du cycle. On revient sur le grand cycle de l'eau dont on parlait tout à l'heure et le petit cycle qui est la production d'eau potable qui est lié au grand cycle. Dans cette période, on voit se développer évidemment l'assainissement collectif, mais aussi l'assainissement non collectif et tout ce qui permet d'encadrer un peu le développement de l'assainissement non collectif. On voit notamment, on passe par exemple de 4 installations d'assainissement non collectif possibles à aujourd'hui presque 600 qui sont accréditées par le ministère. Et les eaux usées sont progressivement collectées, traitées sur l'ensemble du territoire et on voit se développer aussi une vision de plus en plus intégrée. On se rend de plus en plus compte qu'il y a un lien entre l'eau qui circule dans les cours d'eau ou dans les nappes et l'eau qu'on produit pour faire de l'eau potable et l'eau qu'on rejette. Donc cette vision intégrée, elle trouve son expression intermédiaire dans cette période avec l'adoption de la directive cadre et de la législation européenne. Sachant qu'elle est très, très largement inspirée de la loi de 92, notamment au niveau français.
Oui, alors législation européenne, directive cadre sur l'eau, on arrive sur des choses qui dépassent le cadre au départ français. Avant d'aller quand même sur quand même cette chose très importante qui est la directive cadre sur l'eau, sur le milieu aquatique, c'est déjà cette première historique de la législation française sur la politique de l'eau, elle est très intéressante parce qu'au final, ça remonte, comme on l'avait dit, au Moyen-Âge, mais des choses un peu plus locales, un peu moins centralisées, jusqu'à aujourd'hui avec les lois de 1992, etc., qui montrent quand même qu'au final, les réglementations se sont adaptées aux nouvelles problématiques, aux nouvelles évolutions des bassins versants, que ce soit en occupation du sol, au niveau des pratiques, et qu'au final, chaque loi a répondu à des problématiques qui surgissaient ou à des nouveaux constats qui étaient faits, et qui montrent aussi que on n'est pas, je vais m'arrêter si je me trompe, mais si je le comprends, on n'est pas sur un millefeuille législatif qui ne fait que s'accumuler, mais au final, une succession de lois qui répondent aux problématiques qui arrivent, aux constats de dégradation potentielle qui se font au fur et à mesure, et qui montrent que ce qui n'avait pas d'impact ou très peu d'impact il y a fort longtemps peut en avoir aujourd'hui parce que nouvelle occupation du sol, nouvelles problématiques, nouvelle densification, etc. Et ça montre l'intérêt à chaque fois au final de ces lois qui s'enchaînent.
Tout à fait. Il y a non seulement ces nouvelles problématiques qui apparaissent, mais c'est aussi lié au fait que les problématiques passées masquaient en partie d'autres effets. Typiquement, si on parle des micropolluants, la matière organique et les métaux lourds, qui étaient les principaux problèmes dans les années 70, 80, 90, masquaient complètement les effets d'autres substances comme les médicaments, les pesticides, etc. Et puis, on voit aussi se diversifier la production de substances. De plus en plus de médicaments, de plus en plus de pesticides sont découverts et mis sur le marché. Et donc, ça génère de nouveaux problèmes.
D'accord.
Alors, je vais du coup passer au niveau européen. Alors, effectivement, j'aurais pu aborder la loi de 2006 directement. J'ai préféré passer au niveau européen d'abord, puisque en termes d'enchaînement historique, ça fonctionne plutôt de cette manière-là. Et ensuite, je reviendrai sur les lois les plus récentes.
Oui, mais alors justement, la législation européenne, parce que voilà, on vient de faire l'historique de la législation française et on pourrait penser qu'elle est déjà assez complète. Alors pourquoi une législation européenne vient se mettre encore au-dessus? Quel est son intérêt au final par rapport à la législation française?
Alors, il y a plusieurs aspects. Disons que l'Union européenne, en général, elle implique le principe de subsidiarité, c'est-à-dire qu'elle ne met en œuvre que les actions que les États ne pourraient pas conduire seuls ou pas aussi bien. Et l'eau, finalement, c'est une problématique qui est quand même transfrontière. Et donc, du coup, ça relie à la fois le global au local. Et du coup, il faut que le niveau européen soit aussi partie prenante dans cet exercice, hein, comme je l'illustre ici, hein, le grand cycle et le petit cycle sont reliés. Les autorisations, par exemple, pour les pesticides dont je parlais tout à l'heure, elles se font au niveau européen, mais aussi au niveau français. Donc, il y a besoin de coordonner les deux. Il y a aussi la législation européenne, elle permet aussi d'avoir des effets d'entraînement. Par exemple, sur l'assainissement, il y a un certain nombre de pays qui, avant la directive sur les eaux résiduaires urbaines, n'avaient quasiment pas de station d'épuration ou ils collectaient les eaux usées, mais c'était envoyé directement en rivière. et la législation européenne, elle a eu un effet d'entraînement à la fois par les obligations qu'elle a impliquées, mais aussi par les financements que l'Europe a pu apporter pour un certain nombre de pays pour développer cet aspect-là.
Et alors, du coup, s'il y a d'autres intérêts pour la législation européenne, je vous laisserai après compléter, mais du coup, quand on parle de législation européenne sur la politique de l'eau, bien entendu, on parle de DCE, donc la directive cadre sur l'eau. Qu'est-ce que c'est la directive cadre sur l'eau et comment elle a été inclue dans la législation, quelles ont été les conséquences pour la législation française de la directive cadre sur l'eau?
Alors, la directive cadre sur l'eau, c'est une directive qui a été adoptée en 2000, mais qui a été travaillée sur la période de 1994-2000 avec tout un tas d'acteurs, dont la France, hein, puisqu'elle est quand même pas mal inspirée de la loi de 92 française. Qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte une harmonisation européenne de la gestion de l'eau, qui permet d'avoir une approche commune, et du coup d'échanger et de faire travailler tous les experts à tous les niveaux ensemble pour progresser sur la qualité de l'eau, hein, entre autres, sur la quantité aussi un petit peu, mais la DCE est pas très focalisée sur la quantité. La DCE fixe des objectifs environnementaux avec des échéances. Elle fixe aussi des concepts un peu compliqués qu'on appelle état écologique et état chimique. Elle fixe aussi le concept de masse d'eau, qui est l'entité de gestion. Finalement, la masse d'eau, c'est une taille suffisamment petite pour être distinguable et en même temps suffisamment grande pour que ce soit pas trop compliqué de enfin que ça nécessite pas trop de données pour la gérer. Elle fixe un objectif de résultat aussi, donc elle ne fixe pas forcément les moyens, mais un objectif de résultat. Il faut atteindre un bon état des masses d'eau à 2015. Et elle met en place une méthode avec une planification qui s'applique à tous les États membres. Elle introduit aussi une volonté de participation des acteurs et du public avec une consultation sur l'élaboration des plans de gestion. Les plans de gestion faisant partie de la méthode de travail. Donc la méthode de travail, en fait, c'est on fait un état des lieux, une photographie des activités, des usages et des impacts. On établit un programme de surveillance qui permet de suivre le milieu et de voir comment ça évolue. On établit un plan de gestion par bassin. Donc le plan de gestion, il fixe des objectifs pour une période de 6 ans, des objectifs environnementaux. Donc des objectifs de progrès hein, pour aller vers le bon état des masses d'eau. Et elle fixe évidemment un programme de mesures qui définit des actions qui permettent ensuite d'atteindre les objectifs sur la période de 6 ans. Et comme on peut le voir dans ce schéma un peu coloré, elle fixe un processus qui se répète tous les 6 ans avec un certain nombre d'étapes. Et donc qui permettent à tout le monde de fonctionner sur le même mode et d'échanger sur les différentes étapes et donc d'harmoniser petit à petit la méthode autour de la méthode de travail et puis aussi de fournir une comparaison européenne plus facile.
Donc quelque chose de très complexe quand même à mettre en place parce que la DCE date de 2000, mais alors si on voit sa retranscription dans la loi française, ça date de quand ?
Alors, pardon, sa retranscription dans la loi française, elle s'est faite en 2 étapes avec une loi de 2004 qui est spécifiquement dédiée à ça, qui s'appelle Portant transposition de la DCE, donc qui transcrit la DCE en droit français. Et ensuite, par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui va permettre de donner les outils pour répondre aux exigences européennes et aux objectifs de la DCE. Qui va permettre aussi de s'intéresser à la tarification de l'eau. Elle introduit cette loi de 2006 aussi le principe du droit à l'eau, qui est important pour les usagers qui éventuellement n'auraient pas trop les moyens. Elle prévoit de tenir compte du changement climatique. Elle introduit aussi un certain nombre d'outils pour lutter contre les pollutions diffuses. Et elle crée l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques qui a depuis été rassemblé dans l'Office français de la biodiversité.
Et qui avant a fait un petit tour chez l'AFB, donc devenir l'OFB.
Tout à fait.
Pas se tromper. Donc là, on voit les transcriptions de la DCE dans la loi. Alors bien sûr, la loi LEMA est plus vaste, mais là aussi, on fait les points principaux, si je ne m'abuse. Donc là, on a fait un rapide débroussaillage quand même de la politique de l'eau en France et puis européenne et sa retranscription dans la loi française. Mais si on fait un état des lieux un peu global, à quoi ressemble la politique de l'eau et les différentes lois à l'échelle de la France?
Alors, évidemment, on a parlé de quelques éléments dans cette présentation. Hein. Ils sont identifiés là en vert foncé. La loi sur l'eau de 64, la seconde loi sur l'eau, la loi sur les milieux aquatiques. Mais ça s'insère dans une histoire plus vaste et plus large. À l'échelle française, sur le bas de l'image, on voit la loi sur la pêche de loisirs, la loi littorale, le plan éco-phyto, la loi pour la reconquête de la biodiversité, qui sont quelques textes qui peuvent avoir un lien avec l'eau, direct ou indirect. Mais ça s'inscrit aussi dans une histoire européenne longue, avec un certain nombre de directives, soit directement liées à l'eau, soit indirectement au travers de notamment tout ce qui touche à la biodiversité, avec la directive oiseaux, la directive habitat, ou encore au risque avec la directive inondation, où on pourrait même parler plus largement d'autres directives comme la directive sur l'assainissement, sur les eaux résiduaires urbaines ou la directive nitrate, ou encore la directive IPPC qui s'intéresse à la pollution industrielle. Donc tout ça s'inscrit dans une histoire qui est parallèle entre la France et l'Europe, avec des enrichissements mutuels évidemment, et puis aussi avec des approches qui passent dans les années 60-70 par une tentative de régler des problèmes identifiés particuliers, comme la pollution de l'eau, la pollution par les substances dangereuses, à une vision un peu plus intégrée dans les années 90, quand on va s'intéresser à l'assainissement des eaux usées de manière générale, ou à la directive nitrate, on va commencer à s'intéresser à des secteurs et plus seulement à des polluants. Et puis, avec la DCE, là, on commence vraiment à avoir une approche beaucoup plus intégrée, où on essaye de plus laisser de trous dans la raquette et de gérer l'ensemble du bassin versant. En France, avec la loi de 92, on peut faire également ce parallèle sur l'assainissement, où on va s'intéresser pas seulement aux grandes installations d'assainissement, mais à l'ensemble des activités qui génèrent des eaux usées.
Comme on le voit, on a longtemps légiféré sur les milieux aquatiques. Alors, pour ceux qui nous écoutent, s'ils devaient retenir et se renseigner plus en amont sur certaines législations, lesquelles ils devraient surtout cibler, quelles sont les plus importantes dans cette frise? Alors, je suppose que c'est celle dont on a parlé avant.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, la loi de 64, elle apporte une structuration par rapport à l'organisation des agences de l'eau et toutes ces choses-là. Après, en général, les textes, ils abrogent les textes précédents. Donc la LEMA abroge la directive de la loi de 92 et la loi de 92 avait plus ou moins abrogé la loi de 64. Enfin, ça se suit et sans se ressembler, mais en reprenant à son compte une partie des obligations ou des choses qui ont été fixées. Après, l'histoire n'est pas finie. Donc aujourd'hui, c'est la LEMA qui s'applique, mais on parle de plus en plus de faire une nouvelle loi sur l'eau assez intégratrice. Et on voit aussi au niveau européen des évolutions vers l'intégration de l'eau dans d'autres en lien avec d'autres problématiques, l'agriculture, la santé, l'alimentation, etc. Donc l'histoire n'est pas finie.
Et c'est un éternel recommencement. Alors, mais par contre, du coup, on parle peut-être de faire une nouvelle loi sur l'eau, mais alors, vis-à-vis de toutes ces lois qui ont déjà été faites, très, certes, très bien. Mais est-ce qu'on a quand même des constats des évolutions sur la ressource qui sont constatables, ou est-ce qu'au final, on aurait tout fait tout ça pour pas grand-chose?
Alors non, c'est effectivement ce qu'il faut bien voir, c'est que malgré effectivement l'impression que ça donne dans les médias de toujours se dire voilà, les eaux sont polluées, il y a toujours des problèmes de pollution, etc., etc. On voit quand même des progrès assez importants. Alors ils sont parfois difficiles à appréhender puisque la connaissance elle a beaucoup progressé dans les derniers 10 ans, on va dire. On a beaucoup amélioré les outils de mesure de la qualité des rivières, on a beaucoup amplifié aussi le nombre de polluants qu'on suit, etc. Donc, c'est un peu difficile de savoir si dans les années 70, on avait tel ou tel pesticide ou quoi. Mais disons que globalement, avec les données et les connaissances qu'on peut acquérir, collecter, rassembler et comparer, on voit quand même des progrès très visibles. J'ai mis ici deux exemples, la qualité des eaux douces, ça c'est des données qui sont collectées par l'Agence européenne de l'environnement qui est chargée de comparer un peu les situations d'une année sur l'autre. On voit très clairement que pour la France, la qualité s'est beaucoup améliorée. Les codes couleurs correspondent à des classes de qualité pour un paramètre en particulier, mais on pourrait le voir sur plein d'autres paramètres. On voit qu'entre 1993 et 2012, on passe globalement de quelque chose de rouge-orangé à quelque chose de plus bleu-jaune clair. Donc, on voit vraiment un net progrès. Le deuxième graphe, il correspond à des données qui sont valables pour Seine-Normandie, mais c'est pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, ça couvre seulement une partie du territoire français, mais le même constat pourrait être fait sur l'ensemble du territoire. On voit en rouge la pollution nette, c'est-à-dire la pollution qui est effectivement rejetée dans le cours d'eau, et en bleu la pollution qui est générée, celle qui est produite par l'ensemble des acteurs. Et on voit bien que dans les années 60, on générait beaucoup moins de pollution, mais on en rejetait beaucoup plus, et qu'aujourd'hui, on en génère beaucoup, beaucoup plus, mais qu'on en rejette beaucoup moins. Donc, ça veut dire que derrière, il y a de l'épuration, il y a un travail qui est fait et qui permet vraiment ces progrès très, très significatifs. Alors évidemment, il faut apporter quelques bémols. On a des évolutions contrastées. Je prends ici deux exemples, mais on pourrait en trouver plein d'autres. On entend beaucoup parler dans les médias de pesticides. Donc là, c'est un exemple intéressant à ce niveau-là. L'évolution des pollutions dans les cours d'eau, là, on est sur la période 98 à 2016, sur le premier graphe. On voit qu'en rouge, les pesticides, ça évolue relativement peu. Ça baisse un peu, mais on n'est pas encore dans la bonne direction. A contrario, orthophosphate, ammonium, qui sont des paramètres qui sont liés aux eaux usées urbaines essentiellement, ils ont beaucoup baissé sur cette même période. Alors, l'évolution sur les pesticides, elle s'explique aussi par les ventes. On voit par exemple ici que l'évolution des ventes de pesticides est relativement faible pour le moment. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on les retrouve dans les milieux.
Ouais, donc, il y a quand même eu des évolutions sur certaines choses, notamment sur l'assainissement, et aussi encore des efforts qui doivent être faits sur d'autres sujets.
Tout à fait. Sur la biodiversité dont j'ai pas parlé, et sur la continuité des rivières qui permet aussi le développement ou le redéveloppement de toute la faune aquatique, on a aussi encore beaucoup de progrès à faire. On voit apparaître de plus en plus des solutions qu'on appelle solutions fondées sur la nature qui visent aussi à améliorer ça. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et ça m'amène d'ailleurs à plus ou moins à ma conclusion. Les lois sur l'eau, on a vu qu'il y en a eu plusieurs, mais aujourd'hui, on a encore des défis à relever. C'est pas un éternel recommencement puisque c'est des sujets qui n'étaient pas abordés jusque-là, mais la production de plastique, par exemple, depuis les années 2000, croît de manière très, très importante. Et en lien avec ça, on voit une pollution de plus en plus flagrante sur les plastiques, les microplastiques. On voit évidemment toujours persister la pollution par aux nitrates et aux pesticides, hein, qui nécessite encore des efforts pour aborder ces questions et les traiter au mieux. Mais on voit aussi apparaître d'autres problématiques comme le bruit, en particulier dans les océans, qui peut aussi être un problème. On a aussi d'autres défis, hein. Les infrastructures sont voilà, elles ont, comme on a pu le voir dans les évolutions, les stations d'épuration, les réseaux, ça date des années 90 ou plus anciens. Petit à petit, ça vieillit et puis il va falloir les renouveler. En lien avec ça, on a aussi leur consommation d'énergie. On estime aujourd'hui que les stations d'épuration, ça représente entre 2 et 3% de la consommation d'énergie en France. Et donc, il va falloir travailler là-dessus. On voit aussi apparaître la question de la réutilisation des eaux usées, le traitement et la réutilisation des boues ou leur élimination. Certains pays ont fait le choix de l'incinération, la France a fait le choix de l'épandage en partie, hein, mais ça, là encore, c'est on n'est pas au bout de l'histoire. On doit aussi de plus en plus gérer les eaux pluviales, c'est une problématique qui va s'amplifier aussi avec le changement climatique qui apporte plus de variabilité, des sécheresses, des inondations, des fortes températures. Et donc, en lien avec ça, il faut qu'on apprenne à mieux gérer les eaux pluviales, peut-être pour les retenir dans les zones urbaines, pour favoriser plus de végétation qui va permettre de faire de l'évaporation, qui va apporter d'autres services. Et justement, ces services, finalement, l'approche aujourd'hui, c'est l'espace n'est pas infini, et donc on essaye de développer des solutions qui vont de plus en plus avoir plusieurs bénéfices. La désimperméabilisation, par exemple, ça permet à la fois d'infiltrer l'eau dans les eaux souterraines, ça peut permettre en partie d'épurer au travers de la capacité épuratoire des sols, ça peut aussi permettre de développer de la végétation qui va apporter de l'humidité et de la fraîcheur, en particulier en période de canicule. Et donc on est de plus en plus poussé à faire une gestion intégrée qui considère l'eau en elle-même, hein, et l'ensemble du cycle de l'eau, qui est lui-même complexe, mais qui concerne aussi plus largement l'ensemble des liens entre l'eau, l'énergie, la biodiversité. Une vision un peu plus intégrée qui est liée au fait que l'environnement, c'est un ensemble de compartiments qui sont reliés entre eux.
J'ai toute la complexité au final de l'eau, c'est que quand on parle d'eau, on l'a bien vu dans votre présentation sur la politique de l'eau. On parle d'assainissement, d'eau potable, d'agriculture, d'urbanisation, d'entreprise aussi, consommation d'énergie, etc. Donc une nouvelle loi sur l'eau qui est dans réflexion, mais qui s'annonce assez grosse alors sur beaucoup de sujets.
Sans doute. Sans doute un peu grosse, sans doute aussi complexe à élaborer parce que y a plein de sujets et puis aussi parce que il faut pouvoir le relier avec les autres problématiques et donc avec le reste du corpus de lois qui existent ou qui sont en préparation.
Oui, donc de grandes discussions en prévision.
En prévision, tout à fait.
Mais écoutez… Je pense qu'on a fait le tour de la chose. Je vous remercie pour cette présentation succincte mais fort intéressante de mon point de vue sur la politique de l'eau, refaire l'historique et aussi les enjeux qu'il y avait à chaque fois avec ces nouvelles législations et aussi les nouvelles problématiques qui sont au devant de nous et pour lesquelles il faudra apporter une réponse politique avant d'apporter une réponse technique.